Chapitre 7. Les premiers jours de la traversée furent atroces. Le froid était terrible dans la cellule ouverte, le sommeil dans le hamac pénible. Comme nourriture, la ration des condamnés servit dans de vieilles boîtes de conserve. J'étais gardé à vue, le jour par un surveillant, la nuit par deux surveillants, revolver au côté, avec défense absolue de m'adresser la parole. À partir du cinquième jour, je fus autorisé à monter une heure par jour sur le pont, gardé par deux surveillants. Après le huitième jour, la température devint plus douce, puis torride. Je me rendis compte que nous approchions de l'équateur, mais j'ignorais toujours où l'on me transportait. Après 15 jours de cette horrible traversée, nous arrivâmes le 12 mars 1895 en rade des îles du Salut. J'eus l'intuition du lieu par quelques bribes de conversation échangées entre les surveillants, parlant entre eux des postes où ils pensaient être envoyés, postes dont les noms se rapportaient à des localités de la Guyane. J'espérais que j'allais être débarqué aussitôt. Mais je dus attendre près de 4 jours, sans monter sur le pont, par une chaleur torride, enfermé dans ma cellule. Rien, en effet, n'avait été préparé pour me recevoir, et on dut tout organiser à la hâte. Le 15 mars, je fus débarqué et enfermé dans une chambre du bagne de l'île Royale. Cette réclusion absolue dura environ 1 mois. Le 13 avril, je fus transporté à l'île du Diable, rocher inculte qui avait servi précédemment de lieu de détention pour les lépreux. Les îles du Salut se composent d'un groupe de 3 petites îles. L'île Royale, où séjourne le commandant supérieur des pénitenciers des 3 îles, l'île Saint-Joseph et l'île du Diable. À mon arrivée à l'île du Diable, les dispositions prises à mon égard et qui durèrent jusqu'en 1895 furent les suivantes. La case qui me fut affectée était en pierre et mesurait 4 mètres sur 4 mètres. Les fenêtres étaient grillées. La porte était à claire-voie, muni d'un simple barrotage en fer. Cette porte s'ouvrait sur un tambour de 2 mètres sur 3 mètres, accolé à la façade de la case, tambour fermé par une porte pleine en bois. Dans ce tambour séjournait le surveillant de garde. Les surveillants étaient relevés de 2 heures en 2 heures. Ils ne devaient me perdre de vue ni de jour ni de nuit. Pour l'exécution de cette dernière partie du service, la case était éclairée de nuit. Durant la nuit, la porte du tambour était fermée extérieurement et intérieurement, de telle sorte que toutes les 2 heures, pour la relève du surveillant de garde, il se faisait un bruit infernal de clés et de ferrailles. 5 surveillants et 1 surveillant-chef furent chargés de l'exécution du service et de ma garde. Je n'avais la faculté de circuler durant le jour que dans la partie de l'île comprise entre le débarcadère et le petit vallon, où se trouvait l'ancien campement des lépreux, soit sur un espace de 200 mètres environ, complètement découvert, et défense absolue m'était faite de franchir cette limite sous peine d'être renfermé dans ma case. Dès que je sortais, j'étais accompagné par le surveillant de garde qui ne devait pas perdre de vue un seul de mes gestes. Le surveillant de garde était armé du revolver. Plus tard, on y ajouta le fusil et une ceinture garnie de cartouches. Il m'était formellement interdit d'adresser la parole à qui que ce fût. La ration au début fut celle du soldat aux colonies sans levain. Je devais faire la cuisine moi-même, faire d'ailleurs tout moi-même. Les pages qui suivent sont la reproduction intégrale du journal que j'écrivis depuis le mois d'avril 1894 jusqu'à l'automne 1896 et qui était destiné à ma femme. Ce journal fut saisi avec tous mes papiers en 1896. Je ne pus l'obtenir qu'à l'époque du procès de Rennes en 1899.